Bonsoir. Entrons ensemble dans un temps du débat consacré aux moyens déployés pour contrer une hausse attendue du chômage. À l'ordre du jour ce soir, la hausse du chômage est-elle inéluctable ? Le président de la République nous avait averti en juillet dernier la crise de l'emploi allait suivre la crise sanitaire. Mais il affirmait mettre tout en œuvre pour en atténuer les effets. Les prévisions de destruction d'emplois se sont calées, selon les instituts, entre 800 000 et 1 million. Mais on sait, depuis le début de la crise de la Covid, combien les prévisions peuvent être contredites par les faits. Le projet de loi de finances, présenté ce lundi par le gouvernement, table sur un fort rebond de l'activité, mais il n'interrompt pas les plans sociaux en cours. Bien sûr, un accent devrait être mis sur la formation, mais comment former une masse aussi importante de nouveaux chômeurs, tandis que le dispositif territoire zéro chômeur s'élargit ? Est-il possible de faire revenir dans l'emploi des chômeurs de longue durée, tandis que d'autres, plus récemment licenciés, ne trouveront pas eux-mêmes de travail ? C'est ce que nous verrons avec nos trois invités. Carole Tuchrer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes socio-économiste, chercheuse au Conservatoire national des arts et métiers au sein du Centre d'études de l'emploi et du travail et au LISE également, le laboratoire interdisciplinaire de socio-économie, et membre du conseil scientifique d'évaluation de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Avec nous également Fadila Khattabi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée LREM de la 3e circonscription de Côte d'Or et présidente de la commission des affaires sociales. Enfin, Xavier Tambo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste et directeur de l'Observatoire français des conjonctures économiques, le fameux OFCE.
Moi, ce que je crains, Léa Salamé, c'est le chômage. Ce que je crains, c'est les faillites d'entreprises. Ce que je crains quand je soutiens Airbus ou les sous-traitants d'Airbus et qu'on met plusieurs milliards d'euros pour soutenir le secteur aéronautique, c'est qu'il y ait des grandes entreprises aéronautiques françaises à Toulouse ou ailleurs qui s'effondrent. Donc c'est pour ça que je le fais. Quand vous avez 30, 40, 80% du trafic aérien qui n'est plus là, il faut bien que ces compagnies puissent vivre, puissent fabriquer des avions et continuer à en vendre.
Pourquoi il n'y a pas plus de contreparties sur l'emploi, Bruno Le Maire, dans ce plan?
Mais il y a des contreparties sur l'emploi. Quand, par exemple, vous donnez une prime à une entreprise pour qu'elle embauche un jeune, la contrepartie de la prime qui se chiffre à plusieurs milliards d'euros, c'est l'embauche du jeune. Quand on fait une prime pour un apprenti, la contrepartie de la prime pour l'apprenti, c'est l'embauche de l'apprenti. Quand je verse une prime de 7000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique à un ménage français, la contrepartie, c'est qu'il achète un véhicule électrique. Donc il y a déjà des contreparties qui sont fixées.
Voilà, c'était bien sûr, vous l'avez peut-être reconnu, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur France Inter, hier matin au micro de Léa Salamé. Tout de suite, Fadila Khattabi, justement, cette question des contreparties, visiblement, c'est quelque chose qui est souvent demandé au ministre lorsqu'il s'exprime sur la question de la relance, mais également de la possibilité, justement, d'aider les entreprises et d'éviter plus de chômeurs. Vous l'entendez souvent, j'imagine, en tant que présidente de la commission des affaires sociales, cette question.
Oui, effectivement, je l'entends et je l'entends souvent. Il y aura certainement des discussions concernant ces contreparties. Mais je crois que Bruno Le Maire a raison. Il y a déjà des contreparties, notamment concernant le recrutement donc des jeunes, par exemple au niveau de l'apprentissage ou la prime embauche pour les jeunes à hauteur de 4000 euros. Et le but, je crois que ça a été dit, y compris par Bruno Le Maire, c'est de dépenser vite et bien. Moi, ce que j'ai envie de dire, les dispositifs qui fonctionnent, eh bien, faisons en sorte qu'ils fonctionnent et ne pas alourdir avec des contreparties les dispositifs qui fonctionnent. Donc, à nous d'évaluer ce qui fonctionne, les bonnes pratiques, les bons dispositifs pour faire en sorte, effectivement, qu'ils prennent de l'ampleur, bien au contraire.
Mais quand vous travaillez, j'imagine, à la commission des affaires sociales sur l'avenir à 6 mois ou à 1 an, vous travaillez sur quel type d'hypothèse ? Je citais tout à l'heure ce chiffre, 800 000, 1 million, c'est le chiffre qui est à peu près fixé depuis le moment du déconfinement et qu'on a cessé de ressasser depuis, de chômeurs supplémentaires potentiels à l'horizon 2021, au tout début de 2021. Est-ce que vous travaillez sur ces hypothèses-là ou est-ce que vous escomptez des chiffres différents ?
Non, mais écoutez, on travaille effectivement sur ces chiffres, mais ce que je voudrais dire, il y a déjà eu une crise, bien sûr, elle est différente. Cette crise de 2008 qui est arrivée, qui a été aussi brutale, qui était au départ une crise financière, qui est devenue une crise économique. Nous avons aujourd'hui, nous vivons une crise sans précédent, une crise sanitaire qui a un impact aussi sur notre économie, Sauf que nous n'abordons pas de la même façon. Nous faisons en sorte que de reprendre et de faire confiance à l'avenir, avec notamment ce plan de relance qui est un plan ambitieux, vraiment ambitieux, on peut parler même de plan Marshall, pour faire en sorte d'accompagner les entreprises, de protéger les emplois des Français et de continuer à faire en sorte que l'activité reprenne et que la confiance soit au rendez-vous. Donc, on ne peut pas tout à fait dire que nous ne sommes pas confiants. La situation, bien sûr, est difficile et donc les enjeux à relever sont énormes, mais nous faisons en sorte de pouvoir les relever avec des bons dispositifs.
Xavier Timbaud, vous êtes sur quelle hypothèse, vous, à l'OFCE, quand vous réfléchissez à cette question du chômage à l'horizon 2021, au printemps 2021, par exemple ?
Alors, c'est évidemment extrêmement difficile d'anticiper ce qui va se passer parce qu'on vit des circonstances qui sont très très particulières et je pense qu'il faut vraiment le souligner et avoir ça en tête. On est sur des scénarios dans lesquels il y a à la fois des impacts durables qui vont se produire dans l'économie, qui sont liés, par exemple, à ce qu'évoquait Bruno Le Maire, un certain nombre de secteurs qui sont très touchés, et en particulier tous ceux qui ont un rapport plus ou moins proche avec le tourisme, donc ça va du transport aérien, en passant par les services de transport, les compagnies aériennes, par exemple, ou les aéroports, et puis aussi toute l'infrastructure de services qui est associée au tourisme, les hôtels, les restaurants, les locations, donc toute cette partie de l'économie, qui n'est pas négligeable, ça représente plusieurs points de PIB aujourd'hui dans l'économie française, va être durablement impactée. Alors, pas forcément pour toujours, mais il va quand même y avoir un impact qui va durer. Et puis ensuite, donc ça c'est une partie de l'économie dans laquelle il faut envisager des mesures d'accompagnement vers des restructurations, parce qu'elles vont être assez profondes et assez nombreuses. Et puis ensuite, il y a les traces qui vont subsister après la période de confinement, qui sont des entreprises qui n'ont pas pu fonctionner, des commerces qui n'ont pas pu vendre, et ce trou d'activité, ce trou de consommation, ce trou d'investissement, se traduit dans les bilans des entreprises par des pertes, et ces pertes, elles vont pas être récupérées comme ça, d'un claquement de doigts. Dans certains secteurs, les choses vont peut-être se passer mieux, parce que les voitures qui n'ont pas été achetées pendant le confinement le seront peut-être ensuite, mais il y a des secteurs où ces choses ne seront pas récupérées. Et donc, les entreprises vont garder ça dans leur bilan, et elles sont profondément impactées par ça, et c'est ça qui va aussi déterminer la dynamique économique dans les trimestres qui viennent.
Et donc le nombre de chômeurs potentiels en plus.
Et le nombre de chômeurs potentiels en plus, donc on est sur des ordres de grandeur et donc qui sont assez effrayants, c'est-à-dire que on aurait autour de 1 million d'emplois en moins à la fin de l'année 2020 et à la fin de l'année 2021, ce serait autour de 500 000, entre 400 et 500 000 emplois en moins. Donc c'est un choc considérable qui frappe l'économie française. Alors ce qui n'arrange pas les choses, c'est que les économies voisines sont aussi frappées par des chocs similaires. Mais ce sont effectivement des chiffres qui sont gigantesques et qui effectivement appellent à des mesures très très particulières pour y répondre.
Carole Tucheret, qui dit restructuration, comme vient de dire par exemple Xavier Timbaud, dans des champs très variés de l'économie française, de tourisme, mais également le transport, l'aviation, la voiture, etc., etc. Dit formation, ça veut dire ce que je disais en tout début d'émission, qu'il va falloir former en masse ou reformer tout un tas de gens qui vont se retrouver brutalement sur le marché du travail avec des secteurs qui ne pourront plus les employer parce qu'ils auront été eux-mêmes totalement sinistrés.
Oui, tout à fait, vous avez raison. La question de la formation professionnelle s'invite dans le débat sur les restructurations. Je dirais qu'en plus, c'est pas un point fort en France, hein, la formation professionnelle.
C'est le moins qu'on puisse
ni
dire.
Ni en direction des salariés, ils sont à peu près 40% à y accéder chaque année. Et du côté des demandeurs d'emploi, l'effort est encore plus faible. Donc, effectivement, il y a des marges de progression très larges dans ce domaine-là. Donc, il y a un programme qui a été mis en place par ce gouvernement qui s'appelle le programme d'investissement dans les compétences, qui a été richement doté en 2018, puisqu'il bénéficie d'à peu près une vingtaine milliards d'euros. Il y a eu, en fait, un transfert des crédits alloués à la politique de l'emploi vers la formation professionnelle, dans un premier temps. Un transfert des contrats aidés. vers la formation professionnelle. On voit bien que là, on est dans une période où finalement, on en revient à des instruments plus classiques ou à côté maintenant de l'effort qui a été consenti en direction de la formation professionnelle des actifs, on remet sous le feu de l'actualité les contrats aidés, que ce soit dans le secteur marchand ou non marchand, pour des raisons évidentes qu'on peut tous comprendre.
Parce qu'il faut d'un seul coup faire quelque chose très rapidement, donc là les contrats aidés en feront partie, et puis de l'autre côté, commencer à préparer l'avenir en changeant justement les modes de formation ou en préparant les gens à changer de métier. Fadila Khattabi, vous êtes d'accord avec ce tempo, c'est-à-dire un tempo qui va devoir aider tout de suite tout un tas de gens, et on sait effectivement combien l'aide pour les gens qui se trouvent en difficulté est importante au moment où nous parlons, et puis ensuite prévoir les 6 mois, les 1 an, les 2 ans à venir.
Bien sûr, je voudrais revenir sur la formation professionnelle. Effectivement, nous avions voté en 2018-2019 la loi Choisir sa liberté pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et qui a réformé la formation, le monde de la formation professionnelle. On a dû toiletter les choses et surtout faire en sorte d'accompagner les publics les plus vulnérables, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi. Ce qui, jusqu'à présent, on n'a pas mis le paquet sur ce public-là. Donc, on l'a fait. Sur les 15 milliards dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, 7 milliards et demi ont été déjà dépensés. On a contractualisé avec les conseils régionaux. Je rappelle, ils ont la compétence de la formation des demandeurs d'emploi. Et puis, on continue. Et dans le budget de 2021, dans le PLF 2021, on continue de monter. Le budget est en hausse. Puisqu'on rajoute encore 434 millions d'euros, ce qui fait un total pour ce budget sur le volet travail-emploi de 13,2 milliards. Donc il faut continuer d'investir pour les demandeurs d'emploi, accompagner également ceux qui sont et sauvegarder l'emploi de ceux qui sont en situation de travail, et puis en même temps d'accompagner les jeunes. Je pense que dans un pays comme le nôtre, il est important aussi de donner une perspective à la jeunesse. Et que ces jeunes continuent de croire que leur avenir est en France. Et ça, c'est aussi important. Donc, je me permets quand même de rappeler qu'avant la crise sanitaire, les clignotants étaient au vert. On avait un taux de chômage en deçà des 8%. Un taux d'apprentissage, le nombre d'apprentis avait augmenté dans notre pays, ce qui n'était pas arrivé depuis une décennie au moins, plus de 16%. Et donc, nous voulons continuer effectivement de miser sur l'avenir et sur la jeunesse.
Ouais,
donc,
évidemment.
C'est la raison pour laquelle on renforce ces dispositifs-là qui fonctionnent, qui donnent des résultats, avec la prime à l'embauche pour les apprentis mineurs de 5 000 euros et de 8 000 euros pour les majeurs jusqu'en master. Je rappelle simplement que jusqu'à présent, on n'accompagnait que les CAP et les BAC, c'est-à-dire les niveaux 5 et 4. Là, on va beaucoup plus loin, on accompagne jusqu'au master.
Alors, néanmoins, Xavier Timbaud, vous nous avez averti tout à l'heure, effectivement, il faut craindre des licenciements en nombre très important d'ici quelques mois. Alors, on a déjà vu, par exemple, le développement des plans de sauvegarde de l'emploi qui sont obligatoires pour les entreprises de 50 employés minimum et qui ont un projet de licenciement d'environ une dizaine de personnes minimum. Eh bien, on a vu se développer justement ces plans de sauvegarde de l'emploi, 394 depuis mars. Ça n'est pas aussi important que certains l'imaginaient, mais c'est déjà beaucoup plus que l'an dernier à la même période, avec 57 000 ruptures de contrats de travail. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ce qui est en train de se mettre en place dans ce domaine justement des plans de sauvegarde de l'emploi et de ces licenciements qui, pour beaucoup d'entreprises, sont importants, et surtout des petites entreprises qui se mettent justement à licencier, ne pouvant plus payer leurs salariés.
Alors c'est effectivement une des dimensions de l'ajustement des entreprises. Vous avez mentionné que effectivement le nombre de plans de sauvegarde de l'emploi qu'on peut enregistrer à ce jour est plus important que l'année dernière, mais qu'il n'a pas véritablement explosé. Enfin, c'est de l'ordre de effectivement 50 000 emplois qui sont menacés. Alors, par rapport à ça, il faut quand même regarder ce chiffre avec prudence. Bon, d'abord, il y a des plans de sauvegarde de l'emploi qui sont en préparation et qui ne sont pas encore enregistrés. Les entreprises sont dans une grande incertitude et ce qui se passe dans les semaines actuellement va enclencher des processus de mise en œuvre de ces plans de sauvegarde de l'emploi et donc de licenciement. Mais surtout, il y a une autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le marché du travail, ça n'est pas que des gens qui ont un emploi, et les licenciements ne sont pas que le seul moyen pour se retrouver au chômage. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des contrats à durée déterminée, qui sont dans des contrats d'intérim.
Et il y en a déjà eu beaucoup détruits, des contrats à durée déterminée et d'intérim. Je crois que c'est 600 000 emplois qui sont touchés justement depuis pendant le premier semestre et qui sont justement ce type d'emploi plutôt précaire.
Voilà, tout à fait. Et c'est un rapport de 1 à 10 avec les emplois concernés par les plans de sauvegarde de l'emploi. Donc, c'est tout à fait considérable. Mmh. Et c'est par là, en fait, que se fait l'arrivée dans le chômage. Une autre dimension qui est un petit peu plus difficile à prendre en compte, mais qu'on va observer, parce qu'on l'a observé pendant la crise de 2008, ce sont les gens qui arrivent sur le marché du travail, les jeunes, qui normalement trouvent un emploi à durée déterminée, et puis ensuite peuvent avoir un contrat à durée indéterminée. Bah, là, dans une situation comme celle-là, ils vont se retrouver bloqués par le fait que, comme le marché du travail se fige, se paralyse, ils n'arriveront pas à y rentrer. Donc, ils vont aussi contribuer à la hausse du chômage. Donc c'est ces dynamiques-là qui vont fabriquer le chômage et qui sont effectivement assez spectaculaires.
Carole Tucherer et puis ensuite Fadila Khatrabi sur ce point.
Oui, sur les plans de sauvegarde de l'emploi, je pense qu'il faut effectivement regarder ça de façon plus globale. C'est presque que la partie émergée de l'iceberg, hein, puisqu'à côté de ça, vous avez... Xavier Timbaud l'a dit, hein, des gens qui sont en CDD, qui bénéficient d'un contrat intérimaire et qui souvent sont pas intégrés dans ces plans sociaux. Et puis surtout, les plans sociaux, c'est souvent réservé à des grandes entreprises, si je puis dire. Mais dans des entreprises plus réduites, ça passe beaucoup par des ruptures conventionnelles, ça passe aussi maintenant par des accords de performance collective. Donc je veux dire, il faut regarder plus largement ce qui va se passer dans les TPE, PME, ce qui va se passer auprès de tous ces sous-traitants des grandes entreprises qui vont mettre en place des plans sociaux. Bref, tout ça pour dire que l'avenir n'est
pas rose.
N'est pas rose.
Fadila Khatrabi, qu'est-ce que vous dites en particulier sur tous ces emplois précaires, difficiles, déjà difficiles en temps normal et qui le sont rendus encore plus? On entendait ce matin encore aussi autour de la question de la pauvreté, les auto-entrepreneurs qui disaient le Secours populaire se sentent désormais obligés, n'ont pas d'autre solution que d'aller demander des colis au Secours populaire, des CDD, des jeunes, etc., qui se trouvent en difficultés très très graves, justement parce que leur contrat était déjà précaire et ils ont été encore plus fragilisés par la crise.
Tout à fait. Effectivement, on prête un regard vraiment très 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 attentif à l'égard effectivement de toutes ces petites entreprises, micro-entreprises qui malheureusement vont être en difficulté. Ce que je veux dire, c'est que malgré tout, on a poursuivi certains dispositifs qui ont fait leur preuve, je pense notamment au fonds de solidarité national pour accompagner effectivement les entreprises et les indépendants. Je pense à l'activité aussi avant d'arriver au plan de sauvegarde. Il y a l'activité partielle de longue durée mis en place, le chômage partiel, pour pouvoir justement sauvegarder les emplois. Le but, c'est de pas détruire les emplois, c'est de sauvegarder parce que, in fine, il y aura la reprise économique. Donc, il ne faut pas détruire les emplois et voir disparaître des dizaines et des dizaines d'entreprises.
Mais combien de temps ce chômage partiel, Fadila Khatrabi, peut-il être maintenu?
Il durera le temps qu'il faudra. Enfin, pour l'instant, il durera le temps qu'il faudra. Notamment dans certains secteurs d'activité. Vous aviez parlé tout à l'heure de la restauration, de l'hôtellerie, de l'événementiel qui est vraiment durement, durement frappé par cette crise. Mais à ce jour, ce que je peux vous dire, il y a eu à peu près 300 accords qui ont été signés dans les entreprises, ce qui a permis de sauvegarder 50 000 emplois. Donc ça n'est pas rien. Donc le dispositif va perdurer et il perdurera le temps qu'il faudra.
Mais là, pour l'instant, l'annonce a été faite que ça durerait jusqu'à la fin de l'année, mais pour beaucoup des gens qui travaillent dans ces secteurs, on imagine que ça sera bien plus long que cela.
Peut-être, effectivement. Peut-être qu'il faudra aller plus loin. Là, aujourd'hui, la mesure qui va être prise, elle s'élève quand même. Ça a un coût pour le budget d'État considérable, puisqu'on est à plus de 6,6 milliards au niveau du PLF donc 2021.
Donc, projet de loi de finances.
Dans le cadre du projet de loi de finances, donc on continuera. En tout cas, vraiment, on est très attentif à cela et c'est un dispositif qui fonctionne et qui continue de fonctionner puisqu'il est constamment sollicité.
Carole Tucherer.
Oui, effectivement, il y a un volet important qui est mis sur l'indemnisation du chômage partiel. Moi, je dirais que c'est une mesure qui ferait sens si elle était couplée, mais je crois que c'est la volonté du gouvernement d'un dispositif de formation professionnelle. pour former les salariés qui sont en situation difficile, voilà, à des enjeux de reconversion vers des nouveaux métiers, parce qu'on pressent bien qu'il va y avoir quand même beaucoup d'attentes de ce côté-là. Donc chômage partiel, oui, mais si on pouvait coupler ça à des actions de formation et que ce soit effectif dans les entreprises, ce serait un plus, bien sûr.
Vous écoutez Le Temps du Débat. Ce soir, la hausse du chômage est-elle inéluctable? Nous allons peut-être avoir quelques espoirs dans la deuxième partie de cette émission.
C'est arrivé sans prévenir, on se prépare jamais au pire. Savoir comment je l'ai chopé, vous dire qui me l'a refilé.
France Culture.
On m'a dit on te l'inocule, comme ça à titre préventif. Attraper le chômage, j'ai attrapé le chômage.
Le temps du débat.
Attraper le chômage, j'ai attrapé le chômage.
Emmanuel Laurentin.
Le chômage par Marcel et son orchestre. Vous écoutez Le Temps du Débat. Sur cette question, Xavier Timbaud, des moyens à mettre en œuvre pour pouvoir justement éviter que ce chômage ne croisse et de façon inéluctable, comme vous en parliez au tout début de cette émission. Qu'est-ce que vous pensez du projet gouvernemental? Est-ce que vous pensez qu'il va assez loin?
Alors effectivement, pour répondre à cette urgence, et on a vu que les chiffres étaient considérables, et donc il est indispensable de faire quelque chose. Et surtout, il faut bien comprendre que l'argent qu'on dépense aujourd'hui, il peut paraître important, par exemple 6,5 milliards dans l'activité partielle, mais en fait il s'agit d'éviter une récession qui va durer 10 ans, comme celle qu'on a connue en 2008, et où à la fin on se retrouve avec 30 ou 40 points de PIB de dette publique en plus, ce qui représente des centaines de milliards. Donc le coût qu'on évite aujourd'hui, il est finalement tout à fait négligeable par rapport aux sommes qu'on engage. Alors l'activité partielle, c'est un dispositif essentiel. Il a soutenu le revenu des ménages, il a permis aux entreprises de réduire leur coût de masse salariale.
Simplement, quand il a été imaginé, ce processus d'activité partielle, on n'imaginait pas qu'il allait durer aussi longtemps. Et effectivement, là, on est parti pour des durées beaucoup plus longues dans certains secteurs d'activité, Xavier Timbaud.
Oui, et d'autant plus longue qu'on tardera ou qu'on peinera à provoquer ce rebond de l'économie qui est absolument indispensable pour justement empêcher l'hémorragie et éviter l'hémorragie du côté des fonds publics. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'activité partielle, ça couvre assez bien la partie coûts salariaux des entreprises. Ce que ça ne couvre pas du tout, c'est la partie coût du capital, les autres coûts fixes de l'entreprise. Le plan français fait un petit peu l'impasse sur ces coûts-là, ce qui conduit à ce que les entreprises se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, on a estimé à l'OFCE que la période du confinement et du déconfinement, donc jusqu'au 4 juillet 2020, du 11 mars jusqu'au 4 juillet, a représenté une perte pour les entreprises, même quand on prend en compte, enfin, une fois qu'on prend en compte le dispositif d'activité partielle, qui est de l'ordre de 40 milliards d'euros. C'est ça le trou qu'il y a aujourd'hui dans les bilans des entreprises et qui n'est pas couvert par des dispositifs dans le plan de relance. Alors, en tout cas, il n'est pas couvert, il est peut-être couvert au niveau global, de façon agrégée.
Vous savez bien que quand prendre en charge ces coûts, c'est aussi convaincre une opinion publique qu'on n'aide pas trop les entreprises. Or, pour l'instant, une partie de l'opinion publique se dit, ben voilà, il y a des licenciements qui sont en cours, il y a des plans sociaux qui sont en cours, et malgré tout, on aide encore les entreprises. Alors, ça voudrait dire qu'il faudra encore aider plus les entreprises et convaincre l'opinion publique que c'est nécessaire pour soutenir le chômage.
Ça peut vous paraître difficile à accepter, mais...
Ah non, mais je ne parle pas de moi, je parle simplement de ce qu'une partie de l'opinion publique pense.
Je sais bien que c'est assez difficile à comprendre dans l'opinion publique, mais voilà, le débat sur la conditionnalité me paraît être en fait un débat qui s'engage sur des mauvais termes. Le débat qu'il faudrait avoir, c'est plutôt sur... A-t-on des dispositifs qui sont ciblés et qui vont toucher les entreprises qui sont réellement en grande difficulté à cause de la crise qu'on est en train de traverser, ou est-ce que, au contraire, on donne de l'argent de façon un peu trop générique et donc en créant beaucoup d'effets d'aubaine, c'est-à-dire que des entreprises qui n'ont pas particulièrement besoin vont se retrouver à bénéficier d'aide. Voilà. Et donc je pense que plutôt que la conditionnalité, c'est le ciblage des mesures qu'il faut.
Fadila Khattabi, qu'est-ce que vous...
Oui, Moi, écoutez, j'ai le sentiment surtout, de sauver l'emploi des Français et le pouvoir d'achat des Français. Quand on a mis l'activité partielle, ça a été une volonté politique très forte de se dire effectivement les personnes qui étaient qui percevaient un revenu au niveau du SMIC recevaient effectivement leur activité partielle s'élevait à 100% et puis pour les autres à hauteur de 84% en sachant que certaines entreprises ont fait le complément. C'est sauver l'emploi et le pouvoir d'achat des Français. Concernant le PGE, par exemple, on a mis en place le prêt garanti État. Les entreprises, moi, je vois dans mon département, 98% ont reçu une réponse positive. Alors, vous allez me dire, bien sûr, mais les entreprises devront rembourser. On est bien d'accord. Mais ça permet effectivement de maintenir la tête hors de l'eau en cette période extrêmement difficile, tout comme le dispositif Fonds national de solidarité. Là aussi, il a d'ailleurs été élargi, puisque nous passons maintenant même à 10 000 euros par mois, ce qui est considérable.
Et c'est en particulier donc, pour les commerçants, en particulier pour les restaurants, etc.
Bien sûr, voilà. Bien sûr, les restaurants, donc ça n'est pas rien. Donc on est très offensif par rapport à cette crise économique avec des dispositifs qui ont fait leur preuve, puisqu'ils sont extrêmement sollicités encore à ce jour.
Très offensif.
Allez-y, très brièvement, Xavier Timbaud, je vais redonner la parole à Carlotte Touchet.
Très offensif, c'est vrai, mais en même temps, il n'empêche que face à l'ampleur du mouvement auquel on est confronté, en fait, il reste quand même un trou béant. Et ce trou béant, il va se traduire par des entreprises qui font des pertes et des entreprises qui vont licencier. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, en Allemagne, il y a un dispositif qui s'adresse aux entreprises qui ont perdu plus de 60% de leur chiffre d'affaires et qui couvre leurs coûts fixes quand elles ont une réduction de leur chiffre d'affaires pendant la période de confinement qui est supérieure à 60%. Les montants qui sont budgétés sur ce dispositif, c'est 25 milliards d'euros pour l'Allemagne. En France, le PGE, les entreprises vont devoir le rembourser. Les fonds de soutien aux fonds propres, le fonds de soutien aux fonds propres compte pour à peu près 3 milliards. Et donc, le dispositif de solidarité qu'évoquait madame, c'est de l'ordre de quelques milliards. Et donc, en fait, on est très très loin de ce qu'il faudrait pour empêcher l'hémorragie. Donc, toute la question est là. Il y a dans le plan de relance une baisse des impôts de la production. Les impôts de la production, on peut juger que c'est tout à fait nécessaire de les baisser pour des tas de raisons. Mais ça ne produira pas les effets qu'on peut attendre. Et ça va ouvrir le débat sur la conditionnalité. Et ça prend le risque de laisser le chômage exploser.
Ouais. Carole Tucheret, vous avez travaillé et vous travaillez encore justement dans un dispositif qui est, disons, pas central autour de cette question-là, quoi qu'il soit très important, le Conseil scientifique d'évaluation de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, qui a été récemment élargi, c'était en septembre, à 50 territoires de plus par rapport aux 10 territoires pilotes auparavant. Ce dispositif cherche à faire en sorte de faire revenir dans l'emploi des gens qui sont en chômage de longue durée de manière un peu singulière. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette concurrence dont je parlais qui pourrait arriver entre ces chômeurs de longue durée qui se retrouvent depuis très longtemps au chômage et d'autres qui arriveront très rapidement sur le marché de l'emploi et qui se retrouveront peut-être en concurrence pour des postes qui ne sont sûrement pas similaires, mais qu'est-ce que ce dispositif peut permettre de faire dans ce contexte très compliqué de l'emploi ?
Il y a plusieurs questions.
Oui, toujours.
Oui, sur les risques de concurrence entre les publics, vous avez raison. C'est-à-dire que chaque période de crise économique voit le pourcentage de chômeurs de longue durée augmenter, ce qui confirme quand même tout l'intérêt de cette expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée dans un contexte où on sait bien que, notamment avec la politique de contrat aidé, donc je vous le disais tout à l'heure, qui est remise en avant, les entreprises vont plutôt avoir tendance, si je puis dire, à embaucher via ces contrats des gens qui sont pas trop éloignés de l'emploi. Et que donc, pour les chômeurs de longue durée, la file d'attente risque de s'allonger. D'où l'intérêt de ce dispositif, de cette expérimentation, hein, puisque c'est encore une expérimentation, qui vise précisément à faire diminuer et même abolir sur les territoires dans lesquels ce dispositif est expérimenté, le chômage de longue durée.
Et donc, il y a des discussions entre économistes. On se souvient des articles de Pierre Cahuc, par exemple, qui conteste, qui dit que ça coûte beaucoup plus cher que prévu, alors que normalement, il y aurait une neutralité. C'est-à-dire que les aides que l'on ne verse pas à ces personnes-là qui se trouveraient au RSA et dans, avec d'autres aides sociales, mais qu'on verse pour pouvoir justement leur permettre de revenir à l'emploi, coûterait plus cher dans ce dispositif qu'auparavant. Enfin, toujours dit, il y a des discussions entre économistes autour de cette question-là. Oui. Mais néanmoins, est-ce que ce dispositif, selon vous, puisque vous êtes en train de l'évaluer, vaut le coup, d'autant qu'il est soutenu par la quasi-totalité du spectre politique français, ce qui est assez rare en matière de chômage?
Alors, vaut le coup, c'est OUIP, pour l'instant, on ne peut pas répondre. C'est vrai qu'il coûte plus cher.
C'est vrai qu'il coûte plus cher
que prévu, pour des raisons, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui étaient relativement attendues. Je pense qu'il était relativement illusoire de penser que, à travers ce dispositif-là, on allait pouvoir, que c'était un dispositif qui allait pouvoir être neutre budgétairement. La politique de l'emploi coûte de l'argent. Remettre dans le circuit de l'emploi des chômeurs de longue durée, ça coûte de l'argent. Donc, ça a été, je trouve, une mauvaise façon de rentrer dans le débat. Mais je dois dire qu'à TD Carmonde, qui avait poussé lui-même, avait mis en avant l'hypothèse de la neutralité budgétaire. Bon, effectivement, si on rentre dans le débat sur l'utilité de ce dispositif à travers son coût, c'est plus compliqué. Voilà, c'est compliqué de répondre. Sur le fond, votre question, c'était...
Mais c'était justement l'efficacité, justement, pour remettre dans le circuit du travail, justement, des gens qui étaient éloignés de ce travail depuis très longtemps.
Bon. L'évaluation est en cours, hein, comme vous le savez, c'est toujours une réponse un petit peu décevante. Le rapport sera remis dans le rapport final sera remis dans quelques mois, et on a encore besoin d'informations sur le profil précis des gens qui rentrent dans ce dispositif. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais c'est un point très précis de savoir si ce sont des gens très éloignés de l'emploi qui rentrent dans ce dispositif. En tout cas, les premiers éléments dont on dispose montrent, pour les éléments positifs, que ce sont quand même des gens qui, quand on les compare aux résidents des territoires dans lesquels cette expérimentation a été implantée, avaient un état de santé bien plus dégradé, avaient un rapport à l'emploi compliqué, d'une certaine façon, décrochaient par pas mal d'aspects, que ce soit sur les questions de santé, les questions de logement, les questions d'emploi, et cette remise au travail, quand on les interroge, en tout cas, ils le vivent comme une expérience positive, même si ça ne règle pas un certain nombre de problèmes. Son coût, pour moi, n'est pas le problème majeur. Il y a des problèmes de management, des problèmes de coûts fixes, encore une fois, qui n'ont pas forcément été bien évalués au départ et qui posent la question du modèle économique qui est un peu derrière. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment un dispositif dont il faut saluer la nécessaire extension dans cette période de crise.
Un autre point, Fadila Khattabi, est-ce qu'il est temps, est-ce qu'il est bien de remettre en route la question de la réforme de l'assurance chômage dans un contexte dans lequel nous nous trouvons, justement, où on parle d'explosion du chômage? On sait que cette réforme est remise en route.
Oui, bien sûr.
Comment?
Non, mais elle a été déjà dans un premier temps repoussée.
Mais on a annoncé qu'elle allait redémarrer.
Ce qui a été pour l'instant démarré, ce sont les négociations avec les partenaires sociaux. Il est bien évident qu'on ne peut pas avoir la même exigence quand nous sommes en situation de crise économique. Je veux dire, il est beaucoup plus compliqué de demander à un demandeur d'emploi de trouver un emploi quand la situation, elle est celle que l'on connaît. Donc, pour l'instant, moi, je fais confiance au dialogue social qui a été donc lancé, je crois, là, récemment.
Mais néanmoins...
Par Elisabeth Borne.
Oui.
Le but aussi, il y a aussi, je voudrais, si on parle de l'assurance chômage, on parle aussi des devoirs et des obligations des entreprises. Je veux dire, les entreprises aussi ont beaucoup recours aux contrats courts, et les contrats courts aussi, ça pèse aussi sur l'assurance chômage. Donc, il y avait ce système de bonus-malus. Pareil, en période de crise, c'est très compliqué aussi de demander aux entreprises d'avoir, de se projeter sur le long terme. C'est aussi beaucoup plus compliqué. Donc voilà, moi, pour l'instant, le dialogue est lancé avec les partenaires sociaux. On verra ce qui va ressortir de cette négociation.
Carole Duchère, sur ce point de la réforme de l'assurance chômage.
Oui, le dialogue est lancé avec les partenaires sociaux, mais globalement, du côté des syndicats de salariés, c'est quand même une réforme qui a un peu fait l'unanimité contre elle. C'est une réforme vraiment difficile. Je rappelle quand même qu'elle touche à tous les paramètres du régime d'assurance chômage, que la durée d'affiliation préalable pour pouvoir accéder au régime d'assurance chômage dans la réforme, le projet de réforme passait de 4 à 6 mois, que la réforme reposait aussi sur une diminution...
À 6 mois travaillés, vous voulez dire, madame. Vous
pardon
dire, voilà.
À 6 mois travaillés.
4 à 6 mois travaillés sur les 2 dernières années.
Voilà. C'est quand même un durcissement des conditions d'affiliation posées à l'entrée dans le régime d'assurance chômage, plus un système de dégressivité sur les hauts revenus, et on touchait également au salaire journalier de aux revenus de remplacement.
C'est-à-dire la base de l'indemnisation.
Voilà. Donc on n'avait jamais été aussi loin dans la réforme de l'assurance chômage. Je rappelle quand même que dans ce pays, seul un demandeur d'emploi sur deux aujourd'hui est indemnisé par le régime d'assurance chômage, et que les prévision de l'UNEDIC elle-même sur les effets de cette réforme avait prévu qu'à peu près 900 000 demandeurs d'emploi allaient être affectés.
Fadila Khattabi.
Oui, je l'entends. Encore une fois, je vous dis, cette réforme est venue, cette proposition est venue, c'était Madame donc Pénicaud qui était ministre du Travail, dans un contexte économique où les clignotants étaient ouverts.
Et donc,
ce n'est plus du tout le cas. Ce n'est plus du tout le cas. Voilà.
Voilà.
Donc, du coup, les choses sont pour moi claires. Donc, on verra ce qui émane du dialogue social. Je ne vais pas non plus dire les choses avant que les partenaires sociaux se soient exprimés.
Xavier Thébault, très brièvement sur ce point de l'assurance chômage. Très brièvement, on arrive au bout. Ah, je crois qu'on a perdu.
Sur le point de l'assurance chômage, je pense que ce qui est très important de comprendre, c'est que quand.
Allô, oui. Oui, on vous entend.
Donc, ce qui est très important de comprendre. C'est que quand on est dans une situation de chômage très élevée, l'assurance chômage n'a pas du tout le même objectif que dans une situation où le chômage est bas. Là, ce qui compte, c'est quand le chômage augmente, ce qui compte, c'est de maintenir le revenu de ceux qui perdent leur emploi le temps que le chômage sera élevé. Quand le chômage baisse, quand il est par exemple en dessous du 8, comme il était juste avant la crise sanitaire, la question c'est au contraire d'essayer de faire en sorte que ceux qui sont loin de l'emploi puissent revenir dans l'emploi, et donc de déployer tout un système d'incitation, de formation, qui permettent l'activation des dépenses de chômage. Mais là, la phase qui s'ouvre devant nous, c'est une phase où le seul objectif de l'assurance chômage, c'est de maintenir les revenus de ceux qui perdent leur emploi et d'oublier toutes les questions d'incitation et de formation. Non pas que ces questions sont pas importantes, mais la priorité, c'est de garantir les revenus.
Oui, Carole, tu cherches très brièvement.
Je suis tout à fait d'accord. Si on sécurise pas le revenu des salariés et des demandeurs d'emploi, penser le recours à la formation et aux politiques de l'emploi reste illusoire. Les gens ont besoin de savoir de quoi sera faite leur condition d'existence. Donc c'est d'abord et avant tout la sécurisation du revenu et dans le même temps, bien sûr, l'activation des politiques d'emploi.
Et donc cela, effectivement, ça prendra d'abord, il faut le faire immédiatement, puis ensuite il faudra peut-être mettre en place des procédures un peu plus longues pour les mois à venir. Merci à tous les trois. Merci à vous, Fadila Khattabi. Je rappelle que vous êtes députée LREM de la 3e circonscription de Côte d'Or et présidente de la commission des affaires sociales. Merci à vous, Xavier Thébault, économiste et directeur de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, et ainsi qu'à vous, Carole Tuchérer. Vous êtes socio-économiste et également au Conservatoire national des arts et métiers, membre du Conseil scientifique d'évaluation de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée. On en a parlé avec vous. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Hugo Boursier, Fanny Richer, Rémi Baille et Imane Gilles à la technique avec nous. Ce soir, Élise Leu et à la réalisation, Alexandre Manzanares. Une fois l'émission terminée, vous vous posez sûrement la question de savoir ce que sera l'émission de demain. Eh bien, le temps du débat demain, comment l'école fait-elle face à la Covid? Nous allons avoir autour de ce micro des enseignants, mais également un responsable du ministère de l'Éducation, un dialogue organisé autour de cette question très importante de savoir ce que fait la Covid à l'école aujourd'hui.